la masterclass de Agnès B avec Anaël Pijat.
Bienvenue Agnès B dans cette nouvelle masterclass de France Culture qui vous est consacrée et qui se déroule en public à la maison de Radio France. Le principe de cette collection est le suivant, savoir comment ceux qui créent accomplissent leurs projets, comment ils construisent leurs œuvres. Depuis les idées de départ jusqu'à leur plus importante réalisation, les invités de ces entretiens nous racontent les étapes de fabrication de leurs travaux. Avant de débuter, Agnès B., je voudrais rappeler quelques jalons de votre vie de styliste. C'est en 1975 que vous avez ouvert la première boutique Agnès B. Plus de 100 boutiques ont ouvert depuis à travers le monde. Et c'est vous qui dessinez chacun de ces vêtements, jusqu'au plus discret, peut-être les plus indispensables. La maison Agnès B., c'est tout un univers, le vôtre. Et dans cet univers, il y a de l'art sous beaucoup de formes différentes. Il y a les œuvres qui vous nourrissent, à commencer par celles de votre collection. Il y a les œuvres que vous avez défendues à la Galerie du Jour. Il y a celles que vous vous apprêtez à montrer à la FAB, le lieu que vous allez ouvrir dans le 13e arrondissement à Paris au printemps. Il y a les films que vous produisez avec votre société de production Love Streams. Et puis... Ça, c'est fini. Bon, alors, pardon. Enfin, il y a eu, en tout cas, qui vous en nourrit. Et, en tout cas, il y a surtout les films que vous réalisez. En particulier, Je m'appelle M, que vous avez sorti en 2014. C'était votre premier long métrage. Pour revenir aux origines, vous êtes née à Versailles. Votre père était avocat. Vous l'avez beaucoup raconté. Enfant, vous vouliez être conservateur de musée. Était-ce le 18e siècle du château de Versailles? D'où vous est venu, Agnès B., ce goût de l'art?
Il m'est venu de Versailles, il est venu de mon père. Il est venu de mon père qui m'emmenait, qui s'arrêtait dans une église romane ou voir un petit musée de province quand on descendait dans le sud. Et surtout, c'est le château où je me promenais tous les jours depuis, y compris dans la poussette au début. Donc, avec mes frères et sœurs, tous les jours, on allait au bassin de Neptune, on montait l'allée des Marmousets. Et on se mettait à l'endroit au sud qui s'appelle la Petite Provence, qui est la partie qui regarde le sud du château. Et donc ça, cette beauté m'a toujours influencée et je me suis demandé comment me rapprocher de l'art. Petite Versaillaise, ben, je devais faire l'école du Louvre et être conservateur de musée. Et en fait, j'ai ouvert la galerie en 83, la galerie du jour.
Pendant un temps, bien avant la galerie du jour, vous avez suivi des cours aux Beaux-Arts de Versailles. Est-ce à dire qu'à un moment, vous avez envisagé d'être artiste?
Je ne sais pas, c'est mon prof de dessin du cours Gufflet, la mademoiselle Webank, qui a dit à mes parents qu'elle devrait faire du dessin. Voilà. Alors je faisais jusqu'à 9 heures de dessin par semaine en même temps que j'allais à l'école, aux Beaux-Arts, et c'était l'endroit où j'étais le mieux. J'adorais être là-bas. C'est tranquille, c'était beau, c'était bien. Aux Beaux-Arts de Versailles, là, dans la rue de la Chancellerie.
Ce dessin, finalement, cette pratique du dessin, elle a traversé toute votre vie. Est-ce que vous croyez, Agnès B., dans l'idée de la vocation?
Oh, bien sûr. Heureusement qu'il y a des gens qui ont des vocations. Moi, c'est pas tout à fait comme ça que ça s'est passé, hein. Parce que j'ai toujours été styliste, en fait, puisque le journal Elle m'avait remarqué à 20 ans. J'étais habillée aux puces avec des drôles de combinaisons de vêtements. Voilà, et ils m'ont engagée pour 2 ans. Et après, j'étais styliste pour Dorothée Biss et d'autres maisons. Et puis, on a ouvert en 76 la rue du Jour avec Jean-René de Fleurieu.
Un peu
le
avant.
Le beau-fils de Pierre Mendès France.
Le beau-fils de Pierre Mendès France. Voilà. Un peu avant cette étape-là, vous avez commencé à travailler très jeune. Vous avez travaillé pour la galerie Jean Fournier, qui s'appelait encore à l'époque la galerie Kléber.
Oui.
Et là, il y a.
À 17 ans.
À 17 ans. Et là, il y a tout un monde nouveau qui s'est ouvert à vous, à travers les peintres abstraits que la galerie...
Mais je voyais en taille à porter des toiles, timides, avec la toile sous le bras. Ou... Et puis il y avait John Mitchell, il y avait Sam Francis, il y avait toute cette peinture abstraite que Jean a tellement bien défendue jusqu'à sa mort, il y a 10 ans à peu près. Et donc c'était mon premier travail, ça, en effet. J'étais à mi-temps chez lui, après j'ai attendu les jumeaux, je les ai eus pour mes 19 ans. Après, j'ai quitté Christian Bourgois à 20 ans et demi, 21 ans. Et donc, après, il a fallu que je gagne ma vie.
Avec lui, vous avez découvert aussi tout un monde intellectuel au Café de Flore. Il y avait Sartre, il y avait Simone de Beauvoir. Oui. Ce sont des figures qui vous ont marqué beaucoup.
Mais il y avait aussi Édouard Glissant, il y avait aussi les frères, les sculpteurs, là, les frères Giacometti, les deux, avec Diego aussi, qui faisait des meubles, lui. Donc on voyait ces figures arriver au Flore vers ces 8 heures du soir. Est-ce Et quand je ferai un film, ça commencera sur la pendule du Flore, parce que je vais faire un film pour raconter les histoires. Un autre film.
Finalement, vous n'avez jamais fait d'école de stylisme ?
J'ai fait aucune école. En fait, j'ai tout appris en le faisant, moi. J'adore ça, d'ailleurs.
Comment vous avez appris dans toutes ces maisons ? Vous parliez de Dorothée Bisse, mais il y a eu aussi Védové, Pierre Dalby, Cacharel. Qu'est-ce que vous avez appris chez chacun d'eux ? Est-ce qu'il y a des choses que vous avez appris plus chez les uns ou chez les autres ?
On a sûrement échangé beaucoup avec Élie et Jacqueline Jacobson, avec Jean Cacharel, bien sûr, Jean Bousquet, que j'aimais beaucoup. À un moment, je lui ai dit, ou je fais ma boutique, ou je travaille pour vous, mais je n'arrive pas à faire les deux. Là, j'avais déjà 3 enfants. Bon. Donc, il fallait que je fasse autrement. J'ai connu la vie difficile et on n'était pas malheureux. Mais on n'avait pas du tout d'argent, en fait, avec les jumeaux. J'étais toute seule avec eux.
Donc, en 1975, vous ouvrez la première boutique dans une ancienne boucherie de la rue du Jour, dans le quartier des Halles, en plein travaux.
Oui.
Il y avait... C'était toute une époque.
C'était un no man's land, c'était drôle, c'était en plein Paris. Et bon, il y avait des affiches sur les palissades, j'adorais les affiches. Voilà, après, il y a eu Jean-Claude Decaux avec ses plastiques, mais à ce moment-là, les affiches étaient collées, et moi, j'adorais ça. Et je faisais des petites œuvres au mur, comme ça, avec des morceaux d'affiches. J'appelais ça des éphémères, je recomposais d'autres choses. Oui.
J'ai retrouvé dans une ancienne interview un journaliste qui vous disait, qui vous demandait si vous alliez créer votre maison. Et vous répondez, non, c'est beaucoup trop compliqué, je ne veux pas d'ennui, je n'ai pas assez le sens des affaires, je suis très bien comme ça. Qu'est-ce qui s'est passé, Agnès B ?
C'est Jean-René de Fleurieu, en fait, avec un japonais qui s'est épris de ma collection et qui a voulu faire Agnès B au Japon, et puis après il y a eu Hong Kong. La première boutique qu'on a ouverte, en fait, ailleurs, c'était Amsterdam, puis New York, et après Londres. Mais je n'avais pas envie, moi, que ça devienne trop gros, hein. J'étais tranquille, j'étais contente, je faisais ce que je voulais.
Racontez-nous la rue du Jour. Il y avait des oiseaux qui volaient, c'était dans le magasin. Il y avait des textes de Gilles Deleuze qui étaient posés sur le comptoir.
Oui, parce qu'ils venaient nous voir tout le temps, puisque je travaillais avec Fanny Deleuze, ma chère Fanny, qui est une merveille et qui est toujours à venir à mes défilés avec une fidélité magnifique. Et puis Gilles passait pour nous dire, cet après-midi, je vais aller au cinéma. Alors, au début 80, Gilles a commencé à aller au cinéma, et après, Dieu sait s'il a écrit magnifiquement sur le cinéma. On avait le privilège de voir Gilles et Félix Guattari aussi, souvent, de dîner avec eux, de les écouter se parler, c'était magnifique.
Finalement, cet endroit, c'était un lieu de conversation, un lieu de partage, c'est là que...
C'était notre maison du jour.
Par rapport à la maison de la nuit.
Oui, qui était toute noire.
Et qui était rue du Bac.
Oui.
C'est dans cet endroit... qu'est née aussi l'idée des cabines communes qu'on a retrouvées ensuite dans toutes vos boutiques. C'est toujours cette idée du partage, d'une communauté qui se retrouve.
Oui, c'est-à-dire qu'on n'est pas obligé. Maintenant, on a une autre solution pour celles qui ne veulent pas, ou ceux. Mais je ne sais pas, j'avais connu ça en Angleterre, en fait. Ça se faisait beaucoup plus en Angleterre à ce moment-là. Et alors, les oiseaux, c'était 2 oiseaux dans une cage, 2 bengalis. Un jour, avec Jean-René, on a dit, mais si on ouvrait la cage ? Il y avait Ariane qui avait 3 ans, je crois. Ma fille.
Ariane, votre fille.
Oui. Et ben, ils ont commencé à voler. Après, on en a eu d'autres. Ils ont fait des petits. On a mis des nids. Il y avait 35 bengalis qui habitaient dans la boutique. On entendait les bébés qui appelaient pour avoir à manger et tout. Et ils faisaient les nids avec les fils qui tombaient des vêtements, de la poussière et tout ça, dans des petits nids en osier. Et on vivait très bien avec eux. Voilà.
Le trou des Halles de cette époque, c'est aussi la présence d'Élie Jacquenot, d'Alain Pacadis, de Jean-François Bizot. De Jean-François Bizot, le fondateur.
Plein de gens bien, Bazooka.
Bazooka, oui. Tout ça, ce sont des artistes, des créateurs, des gens qui écrivaient, qui ont nourri tout votre univers.
Oui, puis on échangeait, ils passaient là, enfin, on passait, oui, c'était comme ça. C'est pour ça que j'ai eu envie d'ouvrir la Galerie du Jour, pour donner à voir. Je pense, je dis ça toujours, mais donner à voir, c'est un privilège, parce que d'abord, on s'expose toujours en exposant les autres, on expose des choix. Et moi, j'adore ça, proposer des choses et voir comment les gens apprécient. Je pense que c'est un privilège que j'adore. Voilà.
Si on regarde chacun de vos magasins, que ce soit la rue du Jour, que ce soit la rue Michelet qui est dans une ancienne épicerie, que ce soit le garage Panhard à Lyon, l'ancien fleuriste à... Non, le garage Panhard, l'ancien fleuriste à Lille, votre magasin à New York, tous ces lieux sont des lieux qui ont une histoire et on a l'impression que vous avez un sens des lieux très singulier.
Ça compte, vous savez, quand on est parti d'une rue qui s'appelle la rue du Jour, dans une petite maison juste en face de la façade de Saint-Eustache, moi j'ai mieux m'adapter au quartier, à ce qu'on a déjà quand on a la boutique, que de faire la même boutique partout, on n'a jamais fait ça. Et le lieu choisi, comme à Howard Street à New York, c'est un endroit que j'adore, où j'ai vraiment travaillé beaucoup la simplicité de ce qu'on a fait là-bas, avec Laurent Bandet, qui est un complice avec qui je travaille souvent. Voilà, on a fait un truc comme une maison à nous, à New York, une autre, différente, mais en respectant tout, les briques et tout.
Finalement, tous ces endroits ont de commun une forme de mode de vie, un peu à l'image de vos vêtements. Et il y a un certain nombre d'idées qui sont présentes là et qui passent assez bien de la conception de ces lieux à la conception de vos vêtements. L'idée, par exemple, qu'on est toujours un peu décalé par rapport à la saison, par rapport à l'heure du jour.
Oui. Non, ce qu'il faut, c'est être soi-même avec ce qu'on a comme vêtements et être soi-même. C'est voilà, savoir comment on se trouve le mieux, comment on se sent le mieux dans sa peau. Voilà. Mais je propose des vêtements pour qu'on les mélange à sa manière. Et ce ne sont pas des vêtements datés, donc on peut les garder toujours. Cette combinaison, donc ça fait 40 ans qu'elle a été faite. Enfin, pas celle-là exactement. Surtout que maintenant, elle s'ouvre sur les côtés. Mesdames, c'est le nouveau modèle. Il y a deux zips. C'est très très bien finalement. Voilà.
C'est pour ça que vous dites que ce n'est pas la mode qui vous intéresse. C'est parce que vous faites des vêtements... pour que les gens les gardent.
Oui, pour les modes de vie, pour simplifier la vie, pour qu'ils soient contents, pour que les matières soient douces, que ça soit agréable à porter, qu'on puisse embrasser l'emmanchure. Attention, parce qu'il y a des emmanchures, on ne peut pas lever les bras. Hein. Du tout. Non, c'est des vêtements pour vivre. Ce n'est pas des vêtements pour paraître. Après, je pense que on est plus dans l'être que dans le paraître, en fait, certains, et tant mieux, parce qu'il faut ça. Le paraître a eu trop d'importance, vraiment, et on a beaucoup trop maintenant. Le paraître, quoi ? Paraître, montrer, j'ai pu m'acheter une pièce qui coûte 3000 euros, ça veut dire quoi, ça ? Ça ne m'intéresse pas du tout. Donc j'essaie de faire des vêtements qui sont bien conçus, beaux, et qui font plaisir, surtout.
Vous tenez beaucoup à ce terme de styliste. Mmh. Alors, en fait, pour vous, qu'est-ce que c'est le style ? Je regardais la définition du style dans le dictionnaire. Il semblerait que ça soit la gestion de la part de liberté que nous avons chacun.
Ah ben c'est bien ça, c'est joli. Mais je pense qu'on peut tout styliser, c'est ça. Quand on est styliste, c'est pour ça que je tiens à ce nom-là. Créateur, c'est ridicule, c'est beaucoup trop... Quand ils ont commencé à appeler les stylistes des créateurs, au début des années 80, je trouvais ça ridicule. Voilà. Des couturiers, bon, mais des créateurs, je sais pas. Enfin, c'est pour ça que j'aime styliser les choses, j'aime styliser la galerie, choisir les artistes, tout ça. Ça va très loin de styliser, en fait.
Peut-être un mot sur le nom de votre maison, Agnès B. Vous avez choisi...
Je vous ai raconté, hein, j'ai quitté Christian Bourgois avec des jumeaux et j'avais 21 ans. Et le journal Elle appelle, il y avait une parution pour un vêtement de chez Dorothée Bis que j'avais fait. Et on me dit, mais qu'est-ce qu'on met ? Alors je dis, Agnès B, B comme un fait divers, comme on met dans les faits divers. Voilà, ça c'est venu en deux secondes comme ça. Je me souviens, j'étais chez ma grand-mère, c'était au téléphone. Comme ça, le journal qui m'appelait, et voilà.
Et ensuite, il a été ajouté CMC.
Non, CMC, c'était pour rigoler, c'était Comptoir Mondial de Création, avec notre cher Jean-Pierre Monberger, qui était un complice de Jean-René et de moi, qui était un homme merveilleux, qui a appelé ça Comptoir Mondial de Création pour la boutique. Donc c'était pour rigoler au départ. Alors maintenant, bon, mondial, c'est pas vraiment mondial non plus.
Hein. Un petit peu, quand
un
même.
Peu, oui.
Venons-en maintenant, Agnès B, à la manière dont vous viennent les idées. C'est un des cœurs de cette masterclass de France Culture. Au fond, comment vous vient la forme d'un vêtement ? Est-ce que c'est en vous promenant sur la plage ? Est-ce que...
Moi, j'adore les idées. J'adore les idées. Il faut les attraper au vol. Elles vous viennent. Et que, je dis, c'est vraiment comme ça. Des papillons. Oups, voilà, tiens, je vais faire ça. J'adore créer. Je m'ennuie jamais à créer. Je fais des photos aussi pour mettre sur mes vêtements. Même quand je fais la photo, je vois déjà la robe, comment elle va être, avec des robes photos, des jupes, plein de choses comme ça. Après, je travaille beaucoup avec des artistes et eux, j'ai envie de faire un sweatshirt avec un beau dessin dans le dos ou un dessin all over. Et je travaille avec des artistes et on a fait des parkas depuis longtemps avec des artistes qui font des imprimés comme John Wan. C'est toujours des toiles au départ de John Wan ou de Jim Shaw, par exemple, dans lesquelles, avec évidemment leur accord et tout, des toiles que je leur achète pour ma collection et dans lesquelles j'ai fait. C'est arrivé quelques fois, disons.
Est-ce qu'il y a des lectures ? Oui, des imprimés. Mmh. Est-ce qu'il y a des lectures qui vous inspirent aussi ?
Moi, j'étais pas mal élevée dans le Perche, dans une ferme. Et ça m'a marquée, en fait. Les fermières avec leurs robes boutonnées devant, là, qui vont traire les vaches, des robes à petits carreaux, comme ça. J'ai toujours adoré ça. J'ai toujours trouvé ça très joli. C'est comme Brigitte Bardot dans Et Dieu créa la femme. Elle a une robe comme ça, boutonnée devant. Je trouve que le sexy, ça ne veut pas forcément dire le dévoiler. C'est beaucoup plus subtil que ça, évidemment. Quand l'idée est trop forte, c'est ridicule. Quand on en dit trop en tant que femme, faut pas, je crois.
Il y a un certain nombre de vêtements qui sont devenus presque des icônes, qui en tout cas ont marqué des générations. Est-ce que vous pouvez nous raconter, par exemple, la naissance du blouson fifre ?
Le blouson fifre, c'était... On était allé à Amsterdam avec Jean-René et il s'était acheté une espèce de blouson comme ça, qui m'a inspirée, qui était en cuir, mais il n'est pas vraiment comme le fifre, mais... Ça m'a fait penser à Manet, qui a qu'une seule rangée de boutons d'ailleurs, mais bon, on l'a appelé le blouson fifre à cause du fifre de Manet, parce qu'il a des... On le fait toujours, hein, ça fait... Le mien, je l'ai donné à Patti Smith, avec des dédicaces dedans, donc le mien qui était usé, je lui ai donné, maintenant, voilà. Il faudrait que j'en prenne un nouveau, moi, peut-être, je sais pas. Mais c'est un vêtement qu'on garde très longtemps et qu'on adore en homme, en femme, oui.
Et cette combinaison, par exemple, dont vous parliez à l'instant ?
Ben ça, c'est parce que quand j'ai commencé en 76... On avait une usine de vêtements de travail à Bordeaux que j'avais trouvée. Et donc, sur les chaînes de salopettes, de vêtements de peintres, de combinaisons, on a fait des retouches, un peu des coupes à peine différentes. Et ils faisaient passer mes vêtements en même temps que les siens. Puis après, il y en a que j'ai teint dans ma baignoire. Après, on a trouvé un teinturier à Paris. Et c'était des vêtements de travail, donc costauds, bien conçus. Et j'aimais beaucoup travailler avec ce monsieur Porte à Bordeaux. Donc après, on a fait aussi le t-shirt rayé avec Duarig, qui était un fournisseur de maillots de rugby. Donc c'est pour ça que mes t-shirts sont toujours dans le même tissu, à deux fils coton à rayures comme ça, fines ou plus grosses, 6 cm ou 1 cm 20, 12-12 ou 60-60. Ces rayures que j'ai fait déjà pour Qui êtes-vous, Polly Magou, quand j'étais chez Dorothée Biss, avec William Klein, qui préparait ses costumes pour Qui êtes-vous, Polly Magou, où j'ai mis en effet déjà cette rayure... 6-6, là.
Ouais. Alors, ces modèles qu'on connaît tous, vous les transformez au fil du temps. Vous racontiez les zips nouveaux sur la combinaison. Est-ce que vous avez l'impression, ces modèles, que vous les améliorez avec le temps ?
Ben, y en a que j'améliore, puis il y en a aussi plein de nouveaux, heureusement.
Bien sûr, oui.
Je fais 4 collections par an. Tous les 3 mois, j'ai une collection à faire, homme, femme, voilà. Donc, quand j'ai fini une collection, j'en commence une autre.
Et alors, un vêtement... Comment ça se passe ? Vous le dessinez d'abord ?
On travaille sur une table comme une ellipse, que j'ai dessinée d'ailleurs déjà, la table aussi. On peut se masser les pieds, il y a des petits tubes de buis, on peut enlever ses chaussures et se masser les pieds. Il y a un bord de cuir sur l'ellipse, on peut s'appuyer. Donc je travaille toujours avec... Je donne les dessins au fur et à mesure, j'ai le tissu ou le fil pour un pull, et je leur donne à l'équipe, ils sont autour de la table. Et après, ça roule, ça suit. Après, je corrige les vêtements. Voilà, après, il y a les mises au point. Enfin, c'est un travail presque sans fin. Hein.
Est-ce qu'avant le moment où vous êtes autour de cette table, vous prenez des notes
Voilà, parce qu'on travaille. Et puis, il y a celle qui s'occupe des fournitures, celle des tissus. Il y a Emmanuel, Martine, Odile, les t-shirts. Benoît pour l'homme. C'est un travail convivial et moi j'adore, on s'ennuie jamais. Hein.
Et quand on passe du dessin au tissu, comment travaillez-vous la coupe ?
Comment affinez-vous la coupe ? Je dis, c'est très important la coupe. C'est... Parce que je fais un dessin, puis après, il y a une toile qui est faite à l'atelier, comme une ébauche à partir du dessin. Je corrige cette toile, on change la place de l'ajustement, le col, le truc plus petit, plus grand, enfin... C'est la première mise au point, et après on voit arriver le prototype. Et moi, quand je dessine, j'ai déjà l'idée de comment ça va être. Alors qu'au début de la création, quelquefois, on a des surprises. On se dit, ah, ça va être super, et puis voilà, on a des surprises. Donc maintenant, c'est un métier qui s'apprend sur le tas, vraiment, je pense. Et tout d'un coup, ben, on voit que ça y est, c'est bien. C'est un vêtement qu'on peut mettre en vente et qui sera bien. Voilà. Mais à chaque fois, c'est comme si je rendais un devoir, moi. J'attends ma note un peu. Après chaque défilé, ça me fait ça.
Les tissus, vous les choisissez comment? Il y en a que vous faites
faire. Tous sont exclusifs. Tous les tissus chez nous sont faits que pour nous.
Et c'est vous aussi?
Ben c'est moi
qui composez tout.
Oui, mais il y a aussi Laure-Hélène qui. Il y a des. Je peux pas citer tous les noms de mon équipe, hein, mais c'est des gens que j'aime beaucoup, avec qui j'aime beaucoup travailler. Et donc, je viens de faire une robe. C'est mon Instagram en fait que j'ai imprimé sur du crêpe. Il y a le manteau avec la doublure, il y a le Instagram dedans. Donc c'était un voyage en Italie, à Florence là au mois d'août un peu. Après, il y a un peu ma vie comme ça, s'il va être sur une robe, c'est rigolo. Je pense que c'est peut-être la première fois qu'on fait une robe Instagram. Voilà. C'est pour ça que je m'amuse bien. Les idées, c'est super. Parce qu'une fois qu'on voit arriver l'idée réalisée, ben, on est content. Quelquefois, on est déçu, mais la plupart du temps, je suis ravie. C'est comme des cadeaux à chaque fois.
Cette équipe de collaborateurs fidèles qui vous entoure, est-ce que vous leur laissez une part de créativité?
C'est-à-dire que... Je vais vous dire ce qui se passe. Je ne peux pas mettre mon nom sur quelque chose que je n'ai pas dessiné moi. Alors par contre, on invite, là il y en a une en ce moment, Laure-Hélène Vaudier, qui travaille chez nous et à qui j'ai donné une chance de montrer son travail. C'est-à-dire, il y a son nom, ses formes à elle, je ne m'en suis pas du tout mêlée. C'est comme ça, on avait fait ça avec une fille de Sarajevo, une fille de... Plusieurs fois on a fait ça. Et là on a Jane, la chanteuse, qui a fait des sweatshirts avec des oiseaux, qui vont sortir bientôt, et puis aussi Nekfeu. Nekfeu a voulu faire des vêtements hommes Agnès B, mix d'ailleurs, il a fait une petite ligne avec son nom. Donc c'est comme ça qu'on fait. Donc chez moi, c'est une fille justement qui travaille avec moi, qui est maintenant dans les boutiques en ce moment, Laure-Hélène. Oui, qui a beaucoup de talent et je lui souhaite beaucoup de chance par la suite, quoi. Ça ouvrira des portes, j'espère, c'est ça l'idée.
Pour ce qui concerne votre méthode de travail, est-ce que vous avez des rituels? J'imagine que la période qui précède le défilé est extrêmement intense. Est-ce que vous travaillez la nuit?
C'est interdit maintenant. Vous savez, on a la médecine du travail qui débarque. On doit tous être partis à telle heure. Après, il faut qu'on récupère le mercredi, le week-end où on va travailler. Moi, je fais pareil. C'est comme ça. On est très réglo, on est obligé. Et finalement, ça va. Mais on regrette un peu nos dîners prolongés, après du travail après, tout ça. On ne peut plus maintenant, c'est plus possible.
Dans l'atelier qui est le vôtre, est-ce qu'il y a de la musique quand vous travaillez?
Oh, quand on est beaucoup, on ne s'entend pas, il faut qu'on soit précis. Oui, je voulais dire aussi qu'on était passé aux 35 heures, nous, avant que ça soit obligatoire, mais que ça n'a pas été adapté. Il n'a pas eu le temps, Jospin, d'adapter les 35 heures par corporation. Et je pense que dans notre métier de styliste, où il y a des pointes comme ça, on devrait... pouvoir, d'ailleurs chez moi, ils rattrapent ou en temps ou en argent ou les deux, les périodes. C'était comme ça. Mais ce n'est pas adapté à nos métiers, les lois telles qu'elles sont.
Finalement, dans toutes les facettes extraordinairement diverses de ce processus de création, pour vous, est-ce qu'il y a quelque chose qui vous est le plus difficile?
J'essaie de sauter au-dessus des trucs difficiles autant que je peux. Hein. Oui, il faut pouvoir esquiver, il ne faut pas surpasser non plus, il faut voir. Mais moi, j'ai une nature très sereine, alors j'ai beaucoup de chance. Je vois toujours les choses du bon côté. Enfin, j'essaie.
Il y a un autre point dont je voulais parler, Agnès B, c'est l'usage que vous faites de l'écriture. Il y a votre écriture qui est très présente dans votre calligraphie, votre graphie en tout cas, qui est très présente dans votre univers, qui est à la fois un logo et votre signature. Je me demandais quel était pour vous le rôle de l'écriture, si vous avez aussi des textes, si vous faites aussi des...
Moi, j'adore l'écriture.
Journaux.
Je trouve que l'écriture, ça... On ne connaît pas quelqu'un si on ne connaît pas son écriture. Voilà ce que je pense. Il y a eu dans Le Monde une demi-page, il y a 15 jours, j'étais scandalisée, la fin de l'écriture. Comme quoi, il ne faudrait plus apprendre aux enfants à écrire, qu'ils n'ont besoin que du clavier. Je suis archi contre. Hein. Je voulais répondre, je n'ai pas retrouvé l'article. J'étais furieuse. Je me suis dit, c'est un joke, enfin, c'est une plaisanterie, ça, c'est pas possible. C'était un universitaire, je crois, qui avait écrit l'article. Il faut que je le retrouve.
C'est pas exactement la question de l'écriture, mais je m'interrogeais aussi sur l'usage des mots que vous faites, et en particulier celui de cardigan, le cardigan à pression que vous avez créé, qui est lui aussi une de ces icônes dont on parlait tout à l'heure. Pourquoi
c'est parce que je crois que quand j'avais 17 ans, il y avait des films avec Grace Kelly et que ma tante, ma mère, elles avaient des cardigans boutonnés au ras du cou comme ça. Et elle disait, je vais mettre mon cardigan. Et c'est comme ça que ce mot de cardigan est entré dans le vocabulaire. Et puis, c'est le cardigan pression. Bon, il est très vieux, il va avoir 40 ans. Hein. Et on en fait plein pour l'homme aussi, c'est très beau. Moi, j'aime beaucoup. On en a avec des grosses pressions qui montent plus haut et c'est très beau. Bon. Dès qu'ils ont une barbe, on dirait que ce sont des portraits de la Renaissance presque, avec les pressions comme ça sur un truc sombre. Oui. Oui.
Les pressions en nacre, elles sont devenues... Les pressions qui étaient recouvertes de nacre au début, elles sont...
On continue à en faire. Hein. Non, elles sont... Il y a des pressions avec des baies, il y a les Japonais qui veulent ça, les Chinois qui veulent autre chose, mais on change quelquefois les pressions pour faire un nouveau truc.
Quel effet ça vous fait d'être aussi regardé, d'être aussi copié?
Ça me donne envie de faire autre chose, c'est ça qui est bien, ça me donne envie de faire des nouvelles choses.
Je voulais revenir au moment de l'élaboration de tous ces vêtements, celui de leur fabrication. Vous avez raconté que vous dessinez, mais je crois que vous ne cousez pas du tout.
Ah non.
Ça vous ennuie?
Mais ma mère, ma sœur cousaient, mais moi, je n'avais pas le temps.
Vous parliez des premiers ateliers que vous avez choisis. Il y avait par exemple l'atelier de teinture industrielle, avenue Daumesnil.
Oui.
Vos ateliers, vous les choisissez comment aujourd'hui?
Il y a Martine, on est une équipe, on les connaît depuis longtemps, on essaie de faire le plus possible en France. Il y a des usines aussi qui ont elles-mêmes délocalisé, par exemple en Tunisie, où ils travaillent très bien les teintures. D'ailleurs, la première fois que j'avais teint des vêtements, c'était au Maroc, pour Pierre Dalby. Il y avait tous les vêtements, les robes en toile à beurre qui séchaient sur le toit de l'usine, qui était un rez-de-chaussée avec une terrasse. C'était trop beau, il y avait toutes les robes comme ça. J'ai toujours aimé teindre les vêtements, en fait, parce que ça les change complètement.
On parlait juste avant l'émission de la richesse de toutes les régions françaises, et c'est une idée qui vous tient très à cœur, ainsi que le fait de faire fabriquer l'essentiel de vos vêtements en France.
Enfin, le plus possible, vous savez, il y a de moins en moins. Hein. Il y a beaucoup qui ont fermé, ou qui ont délocalisé eux-mêmes. Donc, moi, c'est vrai que je trouve le pays, quand on se promène en voiture, quand on va d'un endroit à l'autre, on traverse des régions, il y a 13 régions qui sont toutes différentes, alors qu'aux États-Unis, on fait 400 km, c'est le même paysage. En France, ces 13 régions sont toutes personnelles. Il faut qu'on ait un ministre du tourisme. On n'a pas de ministre du tourisme, on n'a pas de ministère du tourisme. Il faut les 13 régions les mettre en valeur, sinon on va s'écraser au château de Versailles, et au Louvre et au Mont-Saint-Michel. Il faut vraiment connaître les régions. Il y a des musées partout, des églises, des endroits magnifiques, des vallons avec des villages et des rivières. Et... Oh, moi, j'adore ça. Hein. Donc, il faut vraiment que les touristes aillent dans les régions, je pense. Puis les régions, je les connais un peu aussi à travers mes fournisseurs, les gens qui travaillent pour nous, voilà, et qui ont envie que leur région vive aussi.
Vous allez les voir, ces fournisseurs?
Ça m'est arrivé, oui, bien sûr.
Venons-en au défilé maintenant. Vous en faites un pour chaque collection, et ça a toujours été le cas?
Au début, on le faisait dans le salon de la rue du Bac.
Chez vous?
Il y avait les rédactrices qui étaient là, assises sur des chaises, quelques chaises, c'était comme ça, oui.
C'est un exercice que vous aimez, le défilé?
Oui, parce que... Moi, j'aime bien créer des personnages. C'est pas du tout des stéréotypes, c'est pas du tout le même défi qui passe avec les vêtements comme ça. À chaque fois, j'essaie de créer des personnages. Je me dis, tiens, elle serait garde du Nord avec sa valise, l'autre, elle... Voilà, c'est des personnages. Et puis, je m'adapte aux mannequins. J'aime bien qu'elles aient des physiques et les habiller un peu chacune à mon idée. C'est drôle. Les portants sont prêts, puis après, les mannequins viennent. Et après, j'attribue les tenues suivant leur personnalité à elles. J'ai envie que ce soit elles qui se montrent, finalement. Avec des vêtements qu'elles assument, dans lesquels elles se sentent bien. Et là, du coup, le défilé est quelque chose de fluide, d'agréable. Et voilà, ça se passe bien.
Ouais. Les lieux de vos défilés, c'est vous aussi qui les choisissez?
Oui, avec Gilles, mon cher neveu, qui est le directeur de l'image chez moi, Gilles Pancaille, qui est vraiment quelqu'un de merveilleux, qui a une équipe aussi très sympa, et on fait tout ça ensemble. Hein. Voilà.
Dans vos défilés, il y a aussi évidemment la musique. On n'a pas encore beaucoup parlé de musique.
Oui.
Mais pourtant, c'est quelque chose de très important pour vous.
Mais on fait ça aussi dans les deux jours avant. On n'a pas tellement de temps. Ou alors j'entends un truc à la radio, je me dis, oh, ça serait bien. Ou alors, la dernière fois, il y avait Jen qui a chanté sa nouvelle chanson, c'était super. Alors, elle est entrée avec ses créations, son micro, elle a chanté la nouvelle chanson, avec sa combinaison bleue à pattes rouges, là. Je l'habille depuis tout le temps, elle avait une robe noire à col rond blanc, qui a été une traînée de poudre, cette robe. Tout le monde s'est mis à avoir ses cols ronds blancs. Mais moi, je vois bien que je suis énormément copiée, même si j'ai maintenant moins de parutions. Parce que je pense que les journaux sont prisonniers des annonceurs. Je le dis pour la énième fois, mais c'est vrai. Mais bon, c'est comme ça. J'ai jamais fait de publicité. Je ne veux pas en faire.
Justement, voilà. vous devancez ma question. La diffusion de vos vêtements, en fait, se fait par une manière un peu particulière. Finalement, on voit, on se promenait tout à l'heure dans le hall de la Maison de la Radio où il y avait une exposition sur, où il y a eu en ce moment une exposition sur le rap.
Oui, sur les rappeurs, en fait. Toute une exposition dans le couloir. C'est super, j'arrivais pas à lâcher l'exposition pour venir là.
Il y avait la photo d'Oxmo Puccino.
Oxmo, et vous disiez... j'habille tout le temps, j'habille plein de musiciens. J'habille plein de musiciens de Bowie, Bachung que j'adorais. Je crois qu'il est. Il a disparu avec mes vêtements. Oui.
Vous avez
que
même,
je lui avais fait, oui.
Vous avez même habillé des acteurs dans des films à de nombreuses reprises.
Oui, ça, c'est une vieille histoire. C'était Tarantino qui avait envoyé son habilleuse à ma boutique à Los Angeles, que je n'ai plus d'ailleurs, et qui a habillé Reservoir Dogs. Et donc, Harvey Keitel a encore sa veste à Agnès B., mais elle est trouée de balles. Il est mort dedans. Et il veut toujours que je la rapporte à Paris, que je la mette en vitrine. Je lui dis, mais il faut la trouver d'abord. Il me dit, oui. Doit être un attic quelque part. Il veut absolument que je la montre, sa veste. Et puis David Lynch, que j'habite depuis 25 ans, il m'a encore envoyé un message pour parler de ça. On lui fait toujours ses chemises, ses cravates, ses vestes. Là, je dois lui faire un manteau pour l'hiver, je crois.
Oui. Vous avez souvent raconté qu'il vous est arrivé d'envoyer des vêtements à...
Ah bah oui.
Bah oui, par
exemple. Mais lui, il aimait beaucoup ce que je lui faisais. Hein. Je l'ai habillé pour ses 50 ans au Madison Square Garden, ainsi que pour ses 60 ans. Les deux fois, il m'a demandé de l'habiller. Alors c'était... Mais j'adore Bowie, parce que lui, c'était pas une people, c'était quelqu'un de merveilleux. Hein.
Est-ce que ce geste...
C'était un grand artiste. Hein. Vraiment.
Est-ce que ce geste qui consiste à envoyer... Comme ça, des vêtements à quelqu'un, vous l'avez refait récemment, comme une sorte de marque d'intérêt,
de geste de... Oui, je lui avais offert un jean en cuir noir en disant qu'il devrait « you should stick to rock and roll look » parce qu'il était à Bercy, habillé comme un touriste, un truc qui venait d'Allemagne, c'était sa période Berlin. Il y avait des plis marrons là, c'était... Donc j'ai mis ça avec un mot dans la poche, un jean en cuir noir, c'est comme ça qu'on s'est connus. De Niro, je lui ai envoyé une veste en... Mandin marron foncé.
Alors,
comme un hommage ou un truc comme ça. Et on est devenus amis d'ailleurs après.
Vous parlez de De Niro justement. Je voulais que nous parlions maintenant d'un autre, une autre forme de création très importante dans votre travail qui est celle du cinéma. Le cinéma nourrit beaucoup votre travail. Par exemple, le film noir des le film noir américain des années 30, des années 50. Il y a aussi La Nouvelle Vague, les films de Jim Jarmusch, de Cassavetes, de Fassbinder. Il y a même certains de vos vêtements qui portent des noms qui viennent du cinéma.
Oui, il y a une chemise qui s'appelle Soupçon parce que je l'aurais bien faite pour Notorious, le film d'Hitchcock, avec... comment elle s'appelle Catherine Hepburn, justement. Non, bon, enfin. Elle a une chemise blanche dans le film, et je me suis dit, oh tiens, genre. Du coup, la chemise s'appelle Soupçon, à cause de Notorious en français, qui s'appelle comme ça. Non, mais le cinéma a pu m'inspirer, parce que j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup vu de films anciens. J'adore voir les vieux films, c'est vrai. Maintenant, les films contemporains, si je les aime pour d'autres raisons, ça dépend, j'aime pas tout. Bon, on en est tous là, je crois. Des films qu'on aime, d'autres moins, bon. Là, il y a le film Girl qui sort, là. Je pense que c'est très bien, on met les affiches dans les boutiques, là. Je l'ai pas encore vu, je devais le voir à Cannes, j'avais pas pu y aller, donc je crois que c'est bien. Je crois que l'acteur fait un truc très fort.
Pendant toute une période, il y a donc eu cette maison de production, Love Streams.
Oui.
vous avez emprunté à...
Ben, j'avais demandé, j'avais écrit à Jenna Rollins pour lui demander la permission d'appeler ma maison de production Love Streams en hommage à Cassavetes, qui est vraiment quelqu'un que j'admire infiniment et qui a ouvert des portes, je pense, qui est vraiment un créateur de cinéma très personnel et fort et beau.
Qu'est-ce qui a fait qu'à un certain moment, vous avez éprouvé le besoin de créer cette société de production, de prendre cet engagement ?
Ben, c'est venu parce que j'avais commencé à coproduire ou à soutenir des films comme Gaspard Noé, après Carne, Seul contre tous, Claire Denis, Patrice Chéreau, son frère. Il y a eu plusieurs films comme ça. Alors j'ai eu cette maison de production, mais en fait ça coûtait trop cher. J'avais plus tellement d'argent à mettre pour aider des films. De faire tourner une maison de production à trois personnes toute l'année. J'étais obligée d'arrêter, voilà. Mais ça, je peux quand même aider des films un peu. Ou Harmonie Corinne aussi, qu'on a coproduit.
Une grande rencontre.
Harmonie, j'adore Harmonie, c'est vraiment... On se verrait tous les jours si on habitait la même ville, je crois.
Est-ce que c'est...
Il y a des gens comme ça que j'aime, qui habitent à l'autre bout du monde, bon, c'est comme ça.
Est-ce que c'est un peu avec lui ou grâce à lui aussi que vous avez poursuivi pendant un temps cette activité de production ?
Le dernier film, c'est Mr. Lonely. Voilà, et puis après, il y a eu le mien. Et c'est après le mien que j'ai arrêté, en fait. Oui. Oui. J'ai réussi à faire le film. J'ai écrit le scénario. Je l'ai écrit en deux jours, sur un blog, comme ça, une histoire. J'adorais les devoirs de français, moi, j'aimais beaucoup ça.
Votre film, c'est donc Je m'appelle Oui. Qui est sorti en 2014.
Oui, et qui est sorti chez Potemkin en DVD, là, il y a un an et demi à peu près. Donc on peut encore le trouver en DVD. J'espère bien qu'un jour il passera à la télévision, c'est mon rêve. Parce qu'au Japon, il est resté 6 mois dans des cinémas, et en France, il est presque pas sorti au mois de mai, avec 4 ponts, c'était râpé, fini. Voilà, mais j'ai cadré, j'ai fait... C'était un tournage de 6 semaines en tout, avec Douglas Gordon qui joue le principal rôle, qui est génial, et une petite fille aussi merveilleuse qui joue la petite fille qui se sauve de chez elle.
Choisir un artiste comme le héros de votre film, donc Douglas Gordon, c'est pas une chose anodine.
Non, parce que Douglas Gordon, qui est un artiste écossais, donc certains connaissent peut-être, je pense. La première fois que j'ai vu son travail, c'était un petit au fond d'un couloir au Palais de Tokyo. Non, pas au Palais de Tokyo. Je crois que c'était au Musée d'Art Moderne. Il y avait juste une projection sur le mur et il y avait écrit en anglais « Le temps que vous lisiez ce texte, c'est le temps qu'une tête coupée reste vivante. » Alors moi, Versailles, la guillotine, toutes ces histoires terribles, hein, de la Révolution. J'ai lu ce texte comme ça et j'ai connu Douglas ce jour-là, en fait. Parce qu'il a fait cette pièce, c'est une pièce de Douglas Gordon, qui m'avait glacée, qui m'avait intriguée, voilà.
À l'origine, ça n'était pas lui que vous aviez choisi comme héros de Je m'appelle...
Ah oui, vous êtes au courant. C'était, en fait, il avait même accepté le rôle. C'était Terence Stamp, que j'avais retrouvé au Meurice un matin. Il avait des crocs roses. J'avais jamais vu de crocs roses de ma vie. Et c'était Terence Stamp qui avait ça au pied, avec un costume d'été, voilà.
C'était connu comme un des acteurs.
Et il m'a serré dans ses bras. Après, il avait lu le scénario. Il m'a dit oui, j'accepte, je le fais. Et en fait, ça s'est pas trouvé parce que lui a tourné un film au moment où moi je tournais et j'ai pris Douglas. Voilà.
C'était un des grands acteurs de Pasolini.
Oui. Théorème, c'est un film magnifique. Avec Anne Wazemski. Ah oui, c'est... Trop beau. Et Terence Stamp, c'est trop beau ce film. Sur l'amour. Hein. Que l'amour est un enfant de bohème, hein. Il se pose n'importe où. Oui, c'est vrai. Le père, la mère, le fils, la fille et la femme de ménage, là, extraordinaire quand elle s'envole dans le ciel. Laura Betty.
Avant de prendre la caméra pour Je m'appelle vous aviez... déjà réalisé des petits films?
Ben, j'ai toujours fait des photos déjà, avec le Nikon, à partir de, je sais pas, 22 ans. Après, j'ai cadré avec... Ça, j'ai pris des photos toujours, en fait. J'adore prendre des photos, j'aime beaucoup. J'en ai toujours fait, ça m'a... Voilà. Après, j'ai fait des petits films avec mes vêtements dans des scènes, dans des histoires, que j'inventais l'histoire le matin, on rassemblait les vêtements, on allait dans un endroit... On faisait un film, il se passait une histoire, je montais la nuit, je recommençais le lendemain. Tout ça à 3 jours du jour où je devais montrer les vêtements et le film aux journalistes de mode, voilà. Au lieu de faire un défilé, j'avais fait ça à un moment. Du coup, ça m'a appris à plein de choses.
Est-ce qu'aujourd'hui, vous pourriez les
montrer ? C'est comme un jeu, hein. On dirait qu'on serait mon métier. C'est tout le temps l'imagination, c'est ça que j'aime bien dans ce métier. C'est qu'il y a toujours l'imagination au pouvoir, l'imagination au service du travail. J'aime bien ça.
Ces films, on pourrait les revoir, vous pourriez les remettre.
Mais je sais pas comment faire parce que c'était il y a, je sais pas, j'ai fait ça sur plusieurs années, il y a une dizaine d'années, 8 ans, 7 ans. Il faut retrouver les mannequins, qui a les droits, tout ça, c'est très difficile. On avait les droits pour 6 mois ou 1 an. Alors faut que je les montre, mais je sais pas comment en fait. C'est compliqué pour retrouver tous ces modèles qui étaient des êtres dans des films, des personnages dans mes films en fait. Mais c'est un peu compliqué parce qu'il y en a une dizaine, douzaine de films.
Au début de cette masterclass de France Culture, Agnès B, nous évoquions le fait que l'art était à l'origine de beaucoup de choses pour vous. Vous êtes aussi collectionneuse aujourd'hui. Dans votre collection, il y a pas mal de photographies.
Il y a beaucoup de choses différentes. Hein. Il y a des sculptures, des voitures peintes, beaucoup de photos, beaucoup de peintures aussi. Oui, il y a beaucoup de choses. Et je vais avoir un endroit que j'aime beaucoup qui va ouvrir là, au mois d'avril. Qui va s'appeler La Fable.
On va y revenir tout de suite. Avant, je voulais parler un peu...
Pour montrer ma collection, c'est pour ça que je viens là-dessus, pardon.
Parce que cette collection, finalement, comment vous collectionnez? Comment vous choisissez tous ces objets?
Toutes ces choses, je fais des rencontres, je vois des œuvres qui me sautent aux yeux. Et puis, comme j'ai une galerie depuis longtemps, j'ai l'œil quand même exercé, hein, à voir ce que j'ai jamais vu avant et qui est bien. C'est... quelque chose que j'adore, découvrir des artistes. Je fais beaucoup ça. Ça fait très longtemps. Puis j'étais la première à montrer Nan Goldin à Paris en 92, par exemple, ou Martin Parr, ou après d'autres gens, des New Yorkais aussi. What About New York, New New York Scene, j'avais fait ça il y a 12 ans. Et maintenant, c'est vraiment des artistes comme McGuinness ou des gens ou McGuinness ou qui sont très reconnus. Bien sûr, voilà, c'est marrant, ça m'intéresse. D'ailleurs, ils partent dans d'autres galeries après, souvent. Hein. Puis moi, j'en trouve d'autres. Voilà. Comme dit Yvon Lambert, toi, tu découvres, nous, on fait le boulot. Bon. Moi, je trouve ça gentil de me dire ça. Mais quand même, les artistes s'en vont. Mais je leur en veux pas à eux. Non. Ou Claude Lévesque, que j'adore aussi. Qui a sorti un livre magnifique, là.
Dans ce domaine de l'art, est-ce que vous avez des interlocuteurs privilégiés, des sortes de relais qui vous introduisent?
Bien sûr, Hans-Ulrich Obrist, avec qui on a fait le point d'ironie, avec Christian Boltanski, que j'ai croisé hier soir d'ailleurs, ou Annette Messager, d'autres artistes, alors qu'ils sont dans un autre, comme John Wan, ou tous les graffeurs, ou l'Atlas, j'ai beaucoup d'amis dans le milieu du graffiti aussi, et puis je suis la présidente du centre hip-hop des Halles, alors là j'ai accès aussi à plein de choses, puisqu'ils font la danse, la musique... Et le graphe aussi, ils réunissent des choses d'ailleurs avec le directeur qui est quelqu'un de formidable, Jean-Marc Mougeot.
Est-ce que cette collection finalement est un peu le réceptacle de votre inspiration, de votre univers mental, ou est-ce qu'elle en est le réservoir?
Elle est plutôt le réceptacle que le réservoir, je ne sais pas. Je crois que ces œuvres qui sont quelquefois des œuvres modestes au départ et qui ne sont pas connues, finalement, je m'aperçois qu'après, les choix restent bons. Il n'y a pas de pièces que je renie, que je n'aime pas. J'aime toutes les pièces de la collection. Ouais. Et puis, en plus, c'est comme un grand puzzle, cette collection. Parce que quand j'achète une œuvre, ça peut être une photo dans une vente aux enchères, qui n'intéresse personne, et après je sais quelle place elle va avoir dans ma collection, par exemple. Donc j'achète pas des pièces énormément chères, pas du tout, c'est pas comme ça que je fais autrement, des découvertes ou des choses qui n'intéressent pas les autres, et après ça fait comme un grand collage en fait. Je me réjouis moi de remettre tout ça au mur à la FAB, sur des thèmes à travers ma collection, ou avec des commissaires invités, des amis qui ont envie aussi de plonger dans la collection pour en extirper autre chose. C'est sûr que c'est bien, comme André Magnin ou ceux qui l'ont déjà fait, comme Éric Mézil en Avignon ou à Villeneuve d'Ascq aussi, on avait fait il y a 2 ans, même plus, oui. Et puis aussi à la maison de... au musée de l'immigration, de l'histoire de l'immigration. Là, c'était super, ça aussi. Avec Sam Stourzé d'Arles, des rencontres d'Arles, qui était lui le commissaire avec moi de l'exposition. Donc, c'est régalant, c'est super à faire. J'adore. C'est intéressant.
La galerie, vous le disiez, vous l'avez ouverte en 1983, oui. Et elle était déjà conçue avec un modèle un peu singulier qui était.
C'était les jambons français. C'était encore une boucherie qui s'appelait les jambons français. Il y avait des tables. Donc j'avais fait la librairie Christian Bourgois à l'entrée, et puis après, j'ai commencé à montrer Martine Barra d'abord, qui est là dans le centre hip-hop à montrer son film là, qui a montré là. Son film sur un parcours dans le métro de New York. Elle est Martine Barra, c'est Félix Ouattari qui me l'avait présenté. C'était la première exposition de la galerie du jour. Après, il y a eu les Ripoulin, Pierre Huyghe, Kloski, toute cette bande, Manu, Jean Faucheur. C'était un moment super. Et après, ils étaient exposés chez Tony Chafrasi à New York au mois de janvier. Moi, c'était en novembre. Ici, personne ne les connaissait. Et Tony Chafrasi, qui vendait, lui, Kissaring, et après, et Basquiat, était tombé sur les mêmes que moi à Paris. Donc ça aussi, ça m'encourage des choses comme ça. C'est vrai, ça m'aidait à y croire.
Alors la FAB, oui. C'est cet endroit que vous allez ouvrir dans le 13e.
La FAB, c'est le fonds de dotation ou la fondation Agnès B, donc FAB. Donc il se trouve que c'est un place Jean-Michel Basquiat qui a été inauguré la semaine dernière par le maire du 13e. Et Madame Hidalgo, voilà, et en présence des sœurs de Basquiat et de ses nièces. Et alors, il y en a une qui a les yeux de Basquiat, c'était tellement bouleversant de la voir. Elle a les mêmes yeux que son frère. Et donc, la FAB, c'est un place Jean-Michel Basquiat, juste près d'MK2, de l'autre côté de l'avenue de France, c'est là. Et le point éphémère, nos copains de l'hôpital éphémère et du point éphémère qui est sur le canal Saint-Martin, ils se retrouvent au même endroit que nous aussi, voilà. Donc c'est des histoires naturelles, j'adore les histoires comme ça.
Ce qui est très bouleversant pour la place Jean-Michel Basquiat, c'est que vous ne saviez pas, en vous installant là, que la place allait s'appeler comme ça, puisque non. C'est un nouveau quartier, et que Basquiat, vous l'avez très bien connu.
Non, je l'ai connu, mais j'ai passé 2 heures avec lui, 6 mois avant qu'il meure. Il avait exposé chez Yvon Lambert, et il m'a appelé de la pizzeria en face. Et on a parlé 2 heures au lieu d'aller chez Jean-Charles de Castelbazerac. Et Jean-Charles a compris une fois à la radio où j'ai raconté ça, où on était. On a parlé tous les 2 heures au moins. Et il m'a parlé de l'enfance, les artistes me parlent énormément. Je pense que l'enfance est l'humus de l'œuvre, beaucoup, beaucoup. Je crois qu'on est toujours les mêmes depuis l'enfance, on reste la personne qu'on est, et les artistes sont comme ça aussi, je trouve. Ils parlent énormément de leur enfance. Moi, c'est un sujet que j'adore, alors bon. En fait, j'aurais toujours aimé être petite en même temps qu'eux, en fait. Oui. Une fois au bureau, j'avais mis les photos de tout le monde quand ils étaient petits. Tout un mur avec des photos d'identité de tous les gens de la maison. Il y a 130 personnes. Donc il y avait les 130 personnes comme ça. On avait laissé ça quelques mois, c'était super. Oh Marie-Christine, oh Martine, oh c'était drôle. Parce qu'on les reconnaissait, c'était super ça.
Est-ce que vous avez changé depuis vos 5 ans, Agnès B?
Est-ce que j'ai changé? Je crois pas. Puis je m'entoure aussi de gens avec qui je m'entends bien, comme ça. Vraiment, j'ai la chance.
Est-ce que vous pensez, je reviens à ce rapport que vous avez avec les lieux, est-ce que vous pensez qu'on refait toujours la même maison? Est-ce que vous pensez que ce 13e arrondissement, c'est un peu le nouveau trou des Halles, c'est cet endroit vierge qui ne l'est plus tout à fait, mais encore un peu quand même?
Oui, mais j'aime bien ce qui s'y passe, j'aime bien, il y a l'université, il y a Tolbiac, il y a plein de choses, il y a le point F, il y a plein de choses par là, et c'est pour moi un nouveau Paris, et c'est bien. De toute façon, Paris, c'est pareil, ce sont des villages différents, hein. Il y a des gens qui vont jamais de l'autre côté, qui vont jamais dans le 20e, qui vont jamais dans le 16e, c'est vrai. Et alors là, on est un peu, bon, vers l'Est, mais on est près de la Seine, on est près du cinéma, on est près de la grande bibliothèque, tout. Le bateau phare, les bateaux au bord de la Seine, là. Bon. Non, c'est un quartier hyper nouveau. Et de toute façon, avant, il y avait les frigos, on n'était déjà pas loin avec les copains par là, qui squattaient les frigos pendant des années. Hein. Fury, plein de gens là-bas peignaient aussi au frigo. Donc on est sur le chemin, en fait. Oui. On est, voilà.
À la FAB, vous commencez à le dire, vous allez montrer votre collection. Ces expositions ou ces accrochages, vous allez les faire vous-même?
Au début, en tout cas le premier, je vais le faire, c'est sûr, avec l'équipe et tout, on va se régaler. Et puis on a aussi la galerie du jour, où là je vais faire une maison. Ça va être une maison où tout est à vendre. C'est-à-dire qu'il y aura des photos, des peintures, des dessins, peut-être quelques meubles de jeunes designers français ou italiens, ou je sais pas, nordiques peut-être, juste quelques, mais tout serait à vendre dans la maison. Et moi, comme j'adore assembler des choses qui, à première vue, font pas forcément bien, moi j'adore faire des collages, c'est encore une sorte de collage, hein. Mais c'est pareil chez moi, j'aime beaucoup mélanger les choses. Il y a Basquiat, les meubles de ma grand-mère du 18e de Versailles, ben, ça va.
En fait, ça serait un peu une galerie d'un nouveau modèle.
Oui, tout à fait.
Mais dans laquelle il y aura aussi une librairie.
Comme il y a toujours la librairie, il y a toujours une librairie avec la galerie, comme rue Quincampoix, où on avait la deuxième galerie du jour. Et là, ça va être la troisième galerie du jour qui va être là, à la FAB, place Jean-Michel Basquiat. Avec des surprises dans cette nouvelle maison-là, oui.
En fait, la FAB abrite votre fonds de dotation, et dans ce fonds de dotation, il y a aussi un volet humanitaire qui sont un certain nombre d'actions discrètes, pourrait-on dire, que vous menez, peut-être un peu comme vous avez aidé beaucoup de cinéastes à finir leurs films.
Mais j'aime bien, je pense qu'il faut que les gens riches partagent, hein, vraiment à notre époque. Il faut qu'ils paient leurs impôts en France, il faut qu'ils partagent, voilà mon avis. Bon. Moi, je travaille à 70% pour l'État, donc voilà. Donc c'est pour ça que je suis contente de proposer des choses en dehors de ce que je peux donner à l'État, de gagner pour l'État. En plus, partager, tant mieux, il faut.
Et puis dans...
Puis il y a beaucoup de gens, vous savez, qui aident dans la mesure de leurs moyens. Il y a beaucoup de gens aussi de bonne volonté. Il faut faire appel aux bonnes volontés. Il ne faut jamais louper l'occasion, mais c'est important à notre époque, on le sait bien... Comme il y a des gens malheureux, pauvres. On parle de la pauvreté en France. En Angleterre, c'est pareil. Donc, je pense qu'il faut que les riches ramènent leur argent en France, leurs impôts et tout.
Il y a un dernier volet de cet engagement que vous menez avec ce fonds de dotation. C'est Tara, qui est ce bateau qui est un monde à lui tout seul.
Oui, Tara, c'est ma contribution à l'écologie, puisque... Ce bateau qui était à Peter Blake, qui s'est fait tuer à bord pour sa montre, Étienne, mon fils, Étienne Bourgois, et moi, nous l'avons acheté à la veuve de Peter Blake pour continuer des recherches. Donc Tara, il suffit de regarder sur tara.com et on regarde tout ce que fait Tara depuis 12 ans. Et je soutiens Tara personnellement, moi, mais avec d'autres personnes aussi.
On a l'impression que finalement, parmi vos très nombreuses activités, tout est lié et tout se fait de manière un peu concomitante. Sur Tara, vous avez aussi accueilli des artistes en résidence.
Oui, j'ai pensé qu'il fallait que Napoléon, il emmenait des gens pour dessiner les pyramides, et que nous, sur le bateau, il fallait aussi qu'on emmène des artistes. Parce que je crois qu'il y a un côté, évidemment, la mer et tout, là, tout ce, les découvertes, tout ce qu'ils ont trouvé sur les coraux et avant sur le plancton et tout, grâce à tous ces scientifiques qui sont à bord. Donc à bord, il y a les marins, les scientifiques et deux artistes. En tout, ça fait 12 personnes pour ses voyages au long cours. Et là, il revient à Lorient le 27. Oui.
Et est-ce que ces voyages, ces paysages, ces images scientifiques ont aussi nourri votre travail de création?
Ah oui, j'ai été émerveillée par les dessins du plancton. J'en ai fait d'ailleurs des vêtements en jersey, oui, avec le plancton sur fond noir. Toutes ces bestioles incroyables, c'est magnifique, hein, les formes. Donc, Tara, c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur, et à mon fils aussi. Faisons quelque chose pour l'écologie, voilà, c'est ça.
Finalement, on a l'impression que ce soit avec cette conscience politique forte que vous avez, ou bien du côté des défilés, ou bien du côté de la collection d'œuvres d'art que vous faites, que tout est fait pour s'amuser.
Et oui, parce que je trouve que... La vie peut être belle et il faut en profiter, il faut surtout partager. Il faut aussi... Les artistes, ils vous donnent beaucoup aussi, même si c'est difficile quelquefois. Vous savez que les artistes, quelquefois, il faut les aimer, et puis parce qu'ils sont personnels, mais on s'amuse, je vous dis, même dans mon travail, c'est vrai. Et avec les artistes aussi, en fait. Ouais. J'ai vraiment beaucoup d'amis que j'adore dans ce milieu et dans la musique aussi. Les pauvres Achita qui vient de mourir. Que j'adorais. Ouais.
Pour couronner toutes ces activités, Agnès B., vous avez reçu de nombreux prix. Vous êtes commandeur de la Légion d'honneur, c'est François Hollande qui vous a décoré. Vous êtes aussi commandeur de l'Ordre des Arts et des Lettres, là c'est Gilles Jacob qui vous a remis ses insignes. Vous avez reçu le prix Pasolini, vous avez reçu le prix Montblanc, le prix Sea Keepers pour Tara. Alors j'aimerais savoir comment vous vivez
Oui, c'est à Abu Dhabi pour mon film, qui est l'histoire d'une petite fille qui sauve de chez elle.
J'ai oublié le plus important.
J'ai eu un prix pour la protection de l'enfance à Abu Dhabi. Et ça m'a fait comprendre que vraiment c'était universel, malheureusement, les agressions aux enfants, sur les enfants. Et je trouve qu'en ce moment, on devrait en reparler de ce qui se passe avec les enfants. On parle avec les prêtres, mais je pense que les gens abusés, hommes, femmes, dans leur enfance, gardent ça toute leur vie. Et finalement, le film que j'ai fait, c'est là-dessus que ça marque pour toujours, quand même. Même si c'est pas mon histoire, je sais de quoi je parle. Voilà.
Alors, ce prix-là, effectivement, il est très singulier. Les autres, enfin, ces marques de reconnaissance publique que vous avez reçues, comment vous les vivez? C'est une chose...
Je sais pas, moi, dans mon école, il n'y avait pas de croix d'honneur. Celle de la communale avait des croix d'honneur. Bon, ben, j'ai pris ça comme très, très, je trouve ça très étrange et bon, ça m'a fait plaisir, mais c'est beau. Mais mon grand-père, qui était général, doit se retourner dans sa tombe. C'est ce que j'ai toujours dit. Comment est-ce qu'elle a autant de médailles, celle-là? Qui doit se dire.
Est-ce que vous êtes sensible au regard des autres sur vos créations? Est-ce que vous êtes sensible aux avis qu'on vous donne?
Je travaille un peu avec l'équipe, donc on discute. J'aime bien qu'on discute. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui. Non, et puis après, moi, je prends une décision un peu quand je le sens, mais j'aime bien échanger, j'aime beaucoup, beaucoup.
Et les gens qui vont porter vos vêtements à travers le monde, est-ce que vous pensez à eux quand vous travaillez?
Ah, mais je pense à tous les gens qui vont porter mes vêtements. Je vous dis que mon idée, c'est qu'ils en soient contents, de leur faire plaisir avec ce qu'ils ont, qu'ils s'abîment pas au lavage, qu'ils restent bien toujours, et que ça devienne vos vêtements. On oublie, c'est même plus un vêtement Agnès B, c'est mes affaires. Voilà.
Alors pour finir, Agnès B, cette masterclass de France Culture, si vous aviez un conseil à donner à des jeunes gens qui voudraient s'engager sur l'une des voies que vous avez prises, ce serait quoi?
Il faut y croire, et puis il faut y croire, enfin, il faut se donner, il ne faut pas hésiter à balayer, à prendre le balai, il ne faut pas avoir de... En ce moment, je trouve que quelquefois, bon, ils réagissent pas toujours bien, les jeunes, on leur a trop fait peur, beaucoup, je pense. Il faut qu'ils soient eux-mêmes, qu'ils y croient et qu'ils soient prêts à se relever les manches aussi. Vraiment. Et j'en vois, hein. J'en vois. C'est super. Hier, j'ai vu deux garçons de Sciences Po qui m'ont raconté ce qu'ils voulaient faire, qui voulaient savoir comment je faisais, tout ça. Puis je sens qu'ils sont intéressés par tout ce qui se passe et ça m'a fait plaisir. Voilà. Mais je crois en la jeunesse.
Hein. Merci beaucoup, Agnès B.
Merci à vous.
C'était la masterclass de Agnès B avec Anaëlle Pijat. Attachée de production Nathalie Lempereur, coordination Arnaud Laporte, réalisation Clotilde Pivin.